Bonjour Julien Aubert.
Bonjour.
Le temps politique est en quelque sorte suspendu depuis lundi soir, depuis l'incendie de la cathédrale de Paris. Est-ce que ce moment d'union nationale, pour ne pas dire d'union sacrée après l'incendie d'une cathédrale, vous paraît justifié et nécessaire ?
Il y a le temps de la stupéfaction, parce que je crois que ça a touché beaucoup de Français. Après, tant que je n'ai pas l'impression, si vous voulez, que le gouvernement essaye d'en tirer un quelconque bénéfice politique, il n'y a pas lieu de la briser. Maintenant, ça n'empêchera pas d'avoir des voix dissonantes ou en tout cas de poser des questions.
Et est-ce que cette pause doit encore un peu durer ou est-ce qu'il y a, selon vous, une sorte d'urgence aussi à ce que le débat politique reprenne rapidement puisqu'il y a des enjeux qui arrivent, les élections européennes, les annonces que doit faire le président de la République à l'issue du grand débat, par exemple?
Je crois que ça va se faire naturellement. Comme je disais, c'est le temps de la stupéfaction. Aujourd'hui, il faut passer à des questions concrètes, mais nous ne pouvons pas non plus passer 15 jours sur... la charpente de Notre-Dame.
Qu'est-ce que vous inspire les polémiques qui apparaissent à propos des dons extrêmement importants que certaines familles ont annoncés pour la reconstruction de Notre-Dame ?
Je crois que ça montre d'abord qu'il y a un problème avec l'argent dans ce pays et qu'il y a aussi parfois un sentiment d'injustice de la part d'une grande partie de nos compatriotes qui ont l'impression qu'on ne fait pas assez sur les financements ou sur les dons. Bon. Il y a évidemment aussi une part de publicité pour certaines grandes fortunes. Moi, j'ai l'église de Sénanque, par exemple, dans ma circonscription, qui est menacée d'écroulement. Ils ont contacté certains des grands noms qui ont été donnés sur Notre-Dame. Il n'y a pas eu un euro. Bon. Maintenant, écoutez, je vais vous dire, quelqu'un qui signe un chèque de 10 millions d'euros...
Ou de
100 à 90, ou de, vous voyez ce que je veux dire, de 100, avec une déduction de 90, ça lui fait 10, ou à 75%, ça lui fait 25. C'est toujours bon à prendre. Quand on vous donne un cheval, vous ne regardez pas les dents.
En l'occurrence, d'ailleurs, certains, je crois que c'est la famille Pinault, ont annoncé qu'ils renonçaient à la déduction fiscale qui leur était autorisée.
C'est encore mieux, mais c'est pas la première fois. Hein. Enfin, on a oublié que les colonnes de Buren, on a oublié que le château de Versailles, la galerie des glaces, ont été financées avec du mécénat. Oui. Donc bon, après il y a évidemment une question derrière.
Colonnes de Buren, sur lesquelles d'ailleurs certains s'interrogent de la pertinence. Mais enfin, voilà, depuis bien longtemps.
Je réserve mon avis, disons que je suis plus Notre-Dame de Paris que colonne de Buren.
Mais au fond, vous comprenez tout de même, si j'entends bien ces critiques. D'ailleurs, même la Fondation Abbé Pierre hier s'est félicitée de cette élan de générosité en disant formidable, mais n'oubliez pas, elle s'adressait à certains de ses donateurs, n'oubliez pas d'autres causes comme celle des plus démunis.
Oui, disons, non mais moi je suis clairement, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à ces grandes fortunes, je pense que c'est très bien, ça vient en déduction je dirais de ce que l'État devrait payer parce que ça appartient à l'État. Après, c'est bien de penser aux pierres, c'est bien aussi de penser aux hommes, et donc si ça peut donner ensuite un élan sur d'autres causes, je crois que tout le monde en sera bénéficié.
Alors vous le disiez, le temps de la politique va reprendre ses droits en quelque sorte naturellement, ce sera dans les prochains jours. Le président de la République qui devait s'exprimer lundi sous forme d'une allocution télévisée et puis mercredi sous forme d'une conférence de presse a reporté ses de rendez-vous. Ce sera donc dans quelques jours. Et il devrait annoncer, puisque ces annonces ont assez largement fuité, des baisses d'impôts, notamment pour les classes moyennes, avec a priori la mise en place de nouvelles tranches d'imposition. Ça, c'est une des mesures à laquelle vous êtes favorable.
Oui, même si c'est compliqué de discuter de mesures qui n'ont pas été annoncées, mais qui auraient pu être annoncées, c'est de la météorologie, on prédit le temps qu'il aurait dû faire. Mais sur les classes moyennes, enfin c'est vraiment, je crois, quand on parle de justice fiscale, c'est pas forcément l'allègement je dirais des taxes, c'est effectivement de revoir le système dans son ensemble.
C'est ce qui est d'ailleurs sorti du grand débat, qui n'était pas tant une baisse d'impôts qu'une meilleure répartition des impôts.
Mais évidemment, c'est ça le sujet. Alors après, moi je crois effectivement que ceux qui ont régulièrement perdu dans tous les arbitrages depuis 20 ans fiscaux, ce sont les classes moyennes. Et donc ça, c'est le seul point positif de la non-allocution du président de la République.
Alors évidemment, se posera immédiatement la question du financement d'une éventuelle baisse des impôts. Et parmi les leviers sur lesquels voudrait jouer le président de la République, il y a la durée du temps de travail. Est-ce que c'est le bon outil ?
C'est un des outils. Après, moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est que donc on a ça qui sort dans le débat, alors que c'est un sujet qui est complexe, parce que en réalité, si vous demain vous dites la durée, par exemple, du temps de travail, elle est plus grande, est-ce que je dirais, par exemple, ceux qui faisaient 35 heures plus 2 heures d'heures supplémentaires, donc payés comme des heures supplémentaires, si demain vous les mettez à 37 heures, est-ce que ils auront exactement la même rémunération, puisque normalement on rémunère plus les heures supplémentaires. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de questions basiques. Et moi, si vous voulez, je suis pour qu'on, si on travaille plus, on gagne plus, pas moins. Après, il faut être très clair, à partir du moment où tout le monde doit participer au redressement des finances publiques et de la nation, bah, il faut que ce soit juste, c'est-à-dire que si effectivement on décide de moins rémunérer les heures de travail, eh bien on a l'impression que peut-être les plus riches contribuent aussi à due proportion, je dirais, de ce qu'ils gagnent.
L'introduction d'une dose de proportionnel ferait également partie des propositions du président de la République à hauteur de 20%. Ça serait bon pour la démocratie.
Non, c'est très mauvais. Regardez les élections
européennes. C'est curieux d'entendre ça, parce que on entend bien qu'il s'agit de mieux représenter le vote des électeurs.
Mais les partis politiques, le nombre de partis politiques n'est pas un gage de bonne démocratie. Les Britanniques ou les Américains ont deux partis, deux grands partis, et ils s'en portent très très bien. Ça, si vous voulez, c'est une déformation. Il y a un siècle, les parlementaires français discutaient de l'instauration du scrutin majoritaire parce que justement, la proportionnelle posait problème.
Vous dites les Britanniques et les Américains s'en portent très bien. Vous êtes sûr que ce sont deux bons exemples de sociétés dont le monde politique aujourd'hui est un exemple?
Oui, je pense vraiment. Alors, parce que vous pensez sans doute peut-être à l'élection de Donald Trump et au Brexit. Mais,
exactement.
Mais je veux dire, il y a un meilleur respect, en tout cas, du peuple britannique sur le fameux Brexit que nous en avons eu nous-mêmes par le passé sur d'autres types de référendums. Je mets l'élection de Donald Trump à part, il y a une plus grande vivacité démocratique. Il faut qu'on casse, si vous voulez, ce mythe. La proportionnelle, c'est le parti politique qui choisit votre élu. C'est le cas pour les conseils régionaux, c'est le cas pour les européennes. Vous voyez des fois les résultats. Et surtout, ça veut dire moins d'élus élus sur les territoires, avec deux catégories d'élus. Moi, je suis représentant des territoires ruraux. Ça veut dire que j'aurai une énorme circonscription. Donc, c'est fini la proximité. Or, ce qui manque dans notre démocratie, c'est la confiance. Et la confiance, elle passe par la proximité.
Parmi les mesures que devrait annoncer le président de la République, et ce serait a priori un peu la surprise du chef, il y a la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration, qui est l'objet de nombreuses critiques depuis bien longtemps, mais notamment dans les contributions qui ont été collectées pendant le débat national. Vous avez dit il y a quelques jours que pour vous, cette mesure serait de la pure démagogie. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes énarque, et d'ailleurs de la même promotion qu'Emmanuel Macron.
Ça n'a rien à voir, puisque regardez, on est deux d'opinions différentes alors qu'on vient de la même promotion. Ouais. Justement, vous savez, je sais que c'est impopulaire dans le pays, mais à un moment donné, un homme politique, sa responsabilité, c'est pas d'aller dans le sens du vent. Emmanuel Macron, il va dans le sens du vent, parce que pendant la campagne, il avait dit « Mais moi, je suis là pour défendre l'École nationale d'administration quand on lui reprochait d'être énarque. » Deux ans après, il propose de la supprimer. Il prend les gens pour des imbéciles, d'abord parce que les Gilets jaunes lui ont dit « Les énarques sont déconnectés », il en tire comme conclusion que donc il faut supprimer l'ENA, pas que c'est lui qui a un petit problème peut-être de connexion. Deuxièmement, parce qu'il dit « Je supprime l'ENA » et puis il va probablement recréer une autre. Et troisièmement, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si on doit avoir une élite ou pas. Le sujet, c'est de savoir comment on la sélectionne. Il y a des vrais sujets de consanguinité, de conformité idéologique dans ce pays, mais vous ne le réglerez pas en cassant des murs. Vous le réglerez en cassant des murs psychologiques, ça oui, mais certainement pas une école. Donc, je suis très fier d'ailleurs, je vais vous dire, dans ma famille où il n'y a pas d'énarque, une grande fierté, c'est d'avoir fait cette école.
Un mot des européennes, rapidement. Geoffroy Didier, directeur de campagne, de la campagne européenne, qui est porte-parole également des Républicains, parle du numéro 1 sur la liste des européennes, François-Xavier Bellamy, comme de la divine surprise de la politique française. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme?
J'aurais pas partagé ces mots parce qu'ils ont été utilisés dans d'autres conditions. Je rappelle que la divine surprise, c'est de mémoire, moi. Maurras au moment de l'arrivée de Pétain. Donc, si vous voulez, je crois que on va éviter le parallélisme idéologique. En revanche, je pense que François-Xavier Bellamy est une bonne surprise parce que la droite a subi un chemin de croix, puisque nous sommes en semaine pascale lors de l'Annus Horribilis de 2017 avec François Fillon. Et je crois qu'elle a là l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la sincérité, de l'humilité. Et ça fait du bien à la droite.
Merci Julien Aubert. Bonne journée.
Merci.